Chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons notre série assez difficile. C'est pour cela qu'il serait pas un péché, surtout de ne pas vouloir être trop fier, de penser qu'il faut peut-être réécouter une telle étude. Donc, c'est le message de la croix jusqu'au triomphe final. Le message de la croix jusqu'au triomphe final. C'est l'étude numéro 9 et le titre, c'est « La nouvelle alliance ». Toutes les bénédictions de l'Église nous apprennent quelque chose des insondables richesses de Christ. Éphésiens 3, verset 8, ainsi que des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et des promesses qui ont été faites à Abraham. Hébreux 11, verset 10. Premièrement, nous avons l'ancienne et la nouvelle alliance. Cette alliance est nouvelle par rapport à la première, Hébreux 8, verset 13, qui a été donnée exclusivement à Israël, Psaume 147, verset 19 et 20. Les nations étaient quant à elles étrangères aux alliances de la promesse, Éphésiens 2, verset 12. Ce qualificatif « nouvelle alliance », ou si vous voulez « Nouveau Testament », montre en lui-même que l'Église ne peut être séparée de sa base, qui est la promesse de l'Ancien Testament. Le salut, en effet, il vient des Juifs, même si nous pensons le contraire. Saint Jean, chapitre 4, verset 22, ainsi que Romains, chapitre 9, verset 5. Ce n'est pas toi qui porte la racine, mais c'est la racine qui te porte. Romains 11, verset 18. Et c'est bien vrai. Il n'y a cependant plus aucune différence en Christ pour les croyants juifs ou pour les croyants non-juifs. Nous sommes tous participants des bénédictions de la Nouvelle Alliance au même titre. Quant à son contenu, la Nouvelle Alliance est infiniment plus grande que l'ancienne. L'Épître aux Hébreux, surtout, en fait la démonstration. L'apôtre Paul, dans la seconde Épître aux Corinthiens, mettait en relief la supériorité de la Nouvelle Alliance par un septuple contraste. Et nous allons donc essayer de voir cela de beaucoup plus près. La pierre égale la chair, 2 Corinthiens 3, verset 3. La lettre égale l'esprit, 2 Corinthiens 3, verset 6. La mort est inférieure à la vie qui est supérieure. Notez 2 Corinthiens 3, versets 6 et 7, et le chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 10. La condamnation égale la justice. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Passagère égale permanente. 2 Corinthiens 3, verset 11. Voilé égale dévoilé. 2 Corinthiens 3, verset 12 à 18. Quant à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il montre que Christ est supérieur aux anges. Et oui, Jésus-Christ est le médiateur céleste de l'ancienne alliance. Hébreux, les chapitres 1 et les chapitres 2. Vous pouvez aussi comparer Hébreux chapitre 2, verset 2 avec Actes chapitre 7, verset 53. Christ est également supérieur à Moïse, qui était le médiateur terrestre de l'ancienne alliance et le leader prophétique, selon Deutéronome chapitre 34, verset 10. Christ est supérieur à Josué, c'est celui qui donne le repos et qui est le chef politique, chapitre 4. Christ est supérieur à Aaron, qui est le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance et le leader sacerdotal, chapitre 5, verset non, chapitre 5, jusqu'au chapitre 9 de Josué. Là, il y a de quoi méditer profondément. Ensuite, nous avons Christ qui est plus grand que l'Alliance elle-même. Il est la substance spirituelle de l'ancienne Alliance, chapitre 8. Le Christ, en effet, fait de la royauté une règle intérieure. Il rend l'office prophétique universel et apporte la perfection au sacerdoce. Hébreux 8, versets 8 à 13 et Jérémie 31, versets 31 à 34. Christ est plus grand que le tabernacle, qui est le lieu de la révélation dans l'Ancienne Alliance, chapitre 9. Christ est plus grand que les sacrifices, car il est le médiateur de la patience divine sous l'Ancienne Alliance. Chapitre 10 de Hébreux. Nous continuons encore un moment dans le livre de Hébreux. Jésus-Christ est plus grand que tout ce que inclut l'Ancienne Alliance, puisque en Jésus-Christ, nous avons été rendus participants, on peut bien le dire, tous les versets que nous aurons sont pour l'instant de Hébreux. Donc, Christ, il est d'une meilleure alliance. Hébreux 7, verset 22 et chapitre 8, verset 6. Christ est d'un meilleur médiateur. Hébreux 1, verset 4 et chapitre 3, verset 3. Christ est d'un meilleur sacrifice. Hébreux 9, 23, chapitre 12, verset 24. Christ est d'un meilleur sacerdoce. Chapitre 8, verset 6 et chapitre 7, verset 7. Christ est d'une meilleure possession. Chapitre 6, verset 9 et chapitre 10, verset 34. Christ est d'une meilleure promesse. Chapitre 8, verset 6 et chapitre 11, verset 40. Christ est d'une meilleure espérance. Chapitre 7, verset 19. Christ est d'une meilleure résurrection. Chapitre 11, verset 35. Christ est d'une meilleure patrie. Chapitre 11, verset 16. Revêtus de sa puissance, nous pouvons nous engager sur la route nouvelle et vivante. Chapitre 10, verset 20. Nous pouvons nous engager dans la foi qui regarde en haut, chapitre 11. Nous pouvons nous engager dans l'espérance qui se porte en avant, chapitre 12. Nous pouvons, en quelque sorte, nous engager dans l'amour qui se répand tout autour, chapitre 13. Toujours Hébreux. Deuxièmement, nous avons les alliances abrahamiques et davidiques. Dans son essence, la nouvelle alliance est l'accomplissement des deux alliances faites avec Abraham d'une part et avec David d'autre part. L'alliance abrahamique contenait la largeur de la promesse, les bénédictions pour tous les peuples. Genèse 12, verset 3. L'alliance davidique en souligne la hauteur, la dignité, le trône royal du Messie. 1 Chronique, chapitre 17, verset 11 jusqu'au verset 14. Et c'est pour cela que les deux sont à plusieurs reprises mentionnés ensemble, comme dans le message de l'ange Gabriel et le cantique de Marie. Saint Luc 1, verset 32 et le verset 55 de Saint Luc, chapitre 1. Dans la louange prophétique de Zacharie également, Saint Luc 1, verset 69 et le verset 73, ou dans l'argumentation paulinienne sur la justification, Romains 4, verset 1 à 3 et le verset 6. L'accomplissement néo-testamentaire des promesses va de l'apparition du Messie en Israël et de son œuvre parmi les circoncis comme fils de David. Saint Matthieu, chapitre 10, versets 5 et 6, ainsi chapitre 15, verset 24, jusqu'à la révélation d'un salut qui est destiné au peuple du monde. Actes, chapitre 13, verset 46, Romains, chapitre 11, verset 25, et notez Galates, chapitre 3, verset 8 à 9, et le verset 14. Troisièmement, il y a l'Alliance et le Testament. Strictement parlant, c'est moins une alliance que un testament. Car en effet, une alliance nous engage, ou plutôt engage deux parties. Le testament, par contre, est une disposition unilatérale dictée par la volonté du seul testateur. Les dernières volontés, si vous voulez. Dans le salut, tout procède du seul côté divin. La foi de l'homme n'est pas un équivalent, mais simplement, il est la main tendue qui s'empare de ce qu'il reçoit, de ce que lui est offert. C'est à nous de saisir ce que le Seigneur désire nous donner de sa main. Ensuite, une alliance, elle peut être dissoute par la mort, évidemment. Un testament, par contre, ne devient légalement effectif que par la mort du testateur. Le salut, il est donc pleinement un testament. En effet, le salut, il est dû à la mort du crucifié qui rend l'alliance valide et opérante. Hébreux 9, verset 15 jusqu'au verset 18. La mort du Christ était prérequise en vue de l'héritage éternel selon une sainte disposition. La disposition divine, c'est la meilleure traduction. Et quatrièmement, le peuple de l'Alliance et le monde. Voyons cela. Le peuple de l'Alliance, il est le témoin de la grâce de l'Alliance expérimentée. Il est d'abord l'effet de l'Alliance, ensuite il est son organe. D'abord, il est l'objet, puis ensuite, il est l'instrument du salut. Cette position en relation avec le monde est exprimée surtout par la prière du souverain sacrificateur rapportée dans Saint Jean chapitre 17. Les siens vivent dans le monde, tel est donc leur milieu. Saint Jean chapitre 17, versets 11 et 15. Les saints sont arrachés au monde, telle est leur position, verset 6. Les saints sont séparés du monde, et cela quant à leurs sentiments, verset 16, et vous pouvez noter le verset 14 comme comparaison. Donc, les saints sont envoyés vers le monde. Ça, c'est leur champ de service, le champ du travail. Verset 18. Les saints sont haïs par le monde. Oh oui, ça c'est leur lot terrestre. Saint Jean, chapitre 17, verset 14. Donc, les saints sont préservés du monde. Ça c'est le secret de leur victoire. Verset 15 et le verset 11 de Saint Jean chapitre 17. Et les saints sont aimés déjà dès avant la fondation du monde. C'est le fondement du tout. Et là, il y a quelque chose à dire. Écoutez bien. Avant tous les temps, le Père, Yahvé l'Éternel, avait donné l'Église au Fils comme un don d'amour. Cet amour du Père pour le Fils, avant la fondation du monde, c'est la base de la glorification de l'Église à la fin du monde. Il a dit, « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, puissent être avec moi, où je suis, où je serai, afin qu'ils voient ma gloire, car tu m'as aimé même avant la fondation du monde. » Saint Jean chapitre 17, verset 24. Ainsi, la fin rejoint le commencement et le commencement garantit la fin. Romains 11, verset 36. Luther, il a dit ceci. Celui qui nie la certitude du salut rejette la foi. La rédemption en Christ, c'est à la fois présente, elle est présente et elle est à venir. Par la foi, l'individu possède un salut présent. Il est donc libre et entier, mais il ne l'expérimente néanmoins qu'au travers des plus réels obstacles. Premièrement, nous avons un salut présent qui est libre et entier. L'apôtre Paul surtout illustre son expérience chrétienne par les lumières toujours nouvelles. Il la décrit en cinq images prises toutes dans le domaine juridique où il est particulièrement à l'aise. C'est le pardon, c'est la rédemption, c'est la justification, il y a la réconciliation et l'adoption. Mais ces cinq figures ne sont pas pour lui l'abstraite conception théologique, mais c'est l'expression de la vie législative du monde romano-grec d'alors. Selon les termes d'origine, nous avons la remise des dettes, ce qui veut dire le pardon. Nous avons le rachat, ce qui veut dire la rédemption. Nous avons l'acquittement, ce qui veut dire la justification. Nous avons l'acceptation comme fils, ce qui veut dire l'adoption. Premièrement, dans le pardon, le pécheur est devant Dieu comme un débiteur à qui l'on remet sa dette. Éphésiens 1, verset 7 et chapitre 4, verset 32. Et ajoutez Saint Matthieu 18, verset 21 à 35. Deuxièmement, dans la rédemption, il est devant Dieu comme l'esclave qui reçoit la liberté, la rançon ayant été déjà versée. Romains 6, versets 18 à 22. Troisièmement, dans la justification, il se tient devant Dieu comme l'accusé déclaré juste. Romains 8, verset 33. Quatrièmement, dans la réconciliation, il est devant Dieu comme l'ennemi avec qui la paix a été signée. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. Et cinquièmement, devant l'adoption, il est devant Dieu comme un étranger ou esclave qui reçoit la dignité de fils. Éphésiens 1, verset 5. Chacun de ces cinq tableaux essentiels dévoile un côté particulier de l'expérience unique du salut. Donc reprenons. Premièrement, rappelez-vous, le pardon se rapporte aux fruits qui sont les œuvres individuelles de notre vie et ça concerne les péchés. Éphésiens 1, verset 7 et Romains 3 et le chapitre 4. Chapitre 3 et chapitre 4 de Romains. Deuxièmement, la rédemption concerne la racine, notre entière condition de vie. Ça, c'est l'esclavage du péché. Romains 6, versets 18 à 22, et les chapitres 5 jusqu'au chapitre 8, il y a vraiment de quoi à méditer et prier. Troisièmement, la justification est la somme du pardon et de la rédemption. Donc, c'est l'acquittement de la culpabilité des péchés. Romains 3, versets 23 et 24. Et la déclaration de liberté à l'égard du pouvoir du péché, ça, c'est l'émancipation totale. Romains 6, verset 7 et le verset 10. Quatrièmement, la réconciliation, selon Romains 5, verset 10, concerne la volonté et l'intelligence. C'est une conclusion de paix, c'est l'abolition de l'inimitié. Et cinquièmement, l'adoption est au-dessus de tout, car elle concerne notre position et nous confère la dignité céleste. Romains 8, verset 17. Ainsi, tout est accompli et réglé, péché et les péchés, racines et les fruits, la culpabilité et le pouvoir du péché, la condition et la position du cœur, tout a été porté à la croix et personne n'est plus saint que le pécheur qui a reçu sa grâce, la grâce de Dieu. C'est ce que atteste le comte de Zinzendorf, qui a été un des saints qui a également écrit des citations bibliques, des études bibliques, et qui était considéré comme vraiment un saint, je crois, du 18e, 19e siècle, si je ne me trompe pas. Deuxièmement, il y a les obstacles. Dans le croyant, un conflit vital se poursuit, opposant le futur et le présent. Et deuxièmement, nous avons la position et la condition. Troisièmement, nous avons l'œuvre de Dieu et l'œuvre personnelle. Quatrièmement, nous avons les cieux et la terre. Cinquièmement, nous avons éternité et le temps. Et sixièmement, nous avons l'esprit et le corps. Nous allons donc étudier ça de plus près. On a dit premièrement, nous avons le futur et le présent. Le futur et le présent. Oui, nous avons la rédemption selon Éphésiens chapitre 1 verset 7 et Colossiens chapitre 1 verset 14 et nous attendons la rédemption. Romains 8 verset 23, notez aussi Éphésiens 4 verset 30. Nous avons la vie éternelle selon Saint Jean 3 verset 36 et nous avons à saisir la vie éternelle. 1 Timothée 6, verset 12. Ainsi nous sommes fils de Dieu, Romains 8, verset 14, et nous attendons l'adoption, Romains 8, verset 23. Donc, nous sommes déjà dans le royaume, Colossiens 1, verset 13. Et il nous faut entrer dans ce royaume, Acte 14, verset 22, qui est notre héritage. Notez Éphésiens 5, verset 5 et 1 Thessaloniciens 2, verset 12. Dieu nous a donc glorifiés, Romains 8, verset 30, et il nous glorifiera, Romains 8, verset 17. Telle est la tension qui met en présence le présent et le futur, l'être et le devenir. La foi introduit la plénitude de l'avenir dans la pauvreté du présent. Je répète, la foi introduit la plénitude de l'avenir dans la pauvreté du présent. Christ, il est les prémices, 1 Corinthiens 15, verset 20, Christ a fait aux siens. Aujourd'hui même, il a fait le don des prémices, Romains 8, verset 23. En Christ, nous avons le nouvel âge qui est présent d'une manière vivante, et pourtant l'ancien ne s'en est pas encore allé. Tout ce que nous avons, nous l'attendons. Tout ce que nous attendons, nous l'avons déjà. Donc, nous sommes sauvés en espérance, selon Romains chapitre 8, verset 24. C'est le futur qui draine à lui tout le contenu du Nouveau Testament. Le regard en avant, il est le regard vers le but et le temps même de tout le salut et de toute sanctification. Le Dieu fidèle qui est au-dessus du temps nous garantit le futur comme étant déjà présent et même comme ayant déjà pris place dans le passé. Il nous a glorifiés, Romains 8, verset 30. Et c'est Christ qui personnifie à la fois la promesse et l'accomplissement. Je crois que ça vaut la peine de répéter cela parce que, voyez-vous, on peut se fatiguer par la tension de l'écoute et ça peut nous empêcher de bien comprendre. Alors j'ai reçu par l'Esprit Saint de répéter certaines choses pour que vous puissiez mieux assimiler le tout. Je crois qu'on dit comme ça en français, n'est-ce pas? Donc, chers amis, tout ce que nous avons, nous l'attendons, tout ce que nous attendons, nous l'avons déjà. Nous sommes sauvés en espérance, c'est le futur qui draine à lui tout le contenu du Nouveau Testament. Le regard en avant vers le but, ça c'est le temps même de tout le salut et de toute sanctification. Le Dieu fidèle qui est au-dessus du temps nous garantit le futur comme étant déjà présent et même comme ayant déjà pris place dans le passé. Il nous a glorifiés, alléluia, et c'est Christ qui personnifie à la fois la promesse et l'accomplissement. Merci Seigneur. Et de là vient la conception néo-testamentaire de la manifestation à venir de toutes choses. Colossiens chapitre 3 verset 4 et Romains 8 verset 19. Seuls peuvent être manifestées ou dévoilées des choses préexistantes. Nous avons déjà toutes choses, bien que la jouissance n'en soit encore que partielle. Jusqu'à la rédemption du corps, nous attendons la majorité, Romains 8, verset 23, et notre capital investi est réservé. Il est réservé dans les cieux. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, et 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Ce que nous possédons déjà est une preuve de ce que le capital est bien à nous. Les possessions présentes sont donc les arts des biens à venir. Ce sont les prémices de la moisson. Romains 8, verset 23 et Éphésiens chapitre 1, verset 14. Deuxièmement, nous avons, rappelez-vous, position et condition. Nous sommes morts. Colossiens 3, verset 3. Galates chapitre 2, verset 19 et 20. Chapitre 5, verset 24 de Galates. Ainsi que Romains chapitre 6, verset 6. J'ai dit, nous sommes morts. Et nous devons mettre à mort également nos membres. Colossiens 3, verset 5. Donc nous sommes des hommes nouveaux maintenant. Parce que nous avons mis à mort tout cela. Nous sommes devenus des hommes nouveaux par notre Sauveur et Seigneur. Colossiens 3, verset 10. Éphésiens 4, verset 24. 2 Colossiens 5. Verset 17, « Et nous devons être renouvelés. » Éphésiens 4, verset 23. « Nous sommes lumière. » 1 Thessaloniciens 5, verset 5. « Et nous devrions briller comme des lumières. » Éphésiens 5, verset 9 et Saint Matthieu 5, verset 16. « Nous sommes donc des saints de Dieu. » Colossiens 3, verset 12 et Éphésiens 1, verset 1, et nous devons être sanctifiés. Seigneur, je t'en prie, sanctifie et purifie-moi, corps, âme et esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Hébreux 12, verset 14 et 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Nous sommes devenus ainsi parfaits. C'est un mot qui est un peu fort et j'ai de la peine parfois à croire que je suis parfait. J'ai plutôt l'impression que j'attends à devenir parfait par Christ, par sa mort. Philippiens 3, verset 15 et Philippiens 3, verset 12. Christ habite maintenant en nous par l'Esprit Saint. Colossiens 1, verset 27, et il doit habiter en nous. Éphésiens 3, verset 17, toujours par l'Esprit Saint. Telle est donc la tension qui oppose position et condition, dignité et devoir, réalité et réalisation, position dans la grâce et expérience. La misérable ou le misérable qui a été arraché à sa masure, c'est moi. J'ai été placé parmi les princes maintenant, comme vous. Et nous sommes alors exhortés à nous conduire comme des princes et des princesses. Éphésiens 4, verset 1. La position impose donc forcément des devoirs, car noblesse oblige. C'est là qu'apparaît une autre tension, celle qui oppose la chair et l'esprit. Galates 5, verset 17. Le vieil homme et le nouvel homme. Romains 6, verset 6 et verset 11. C'est là aussi qu'intervient l'œuvre constante de la foi qui est la sanctification. Troisièmement, nous avons l'œuvre de Dieu et l'œuvre personnelle. C'est Dieu qui opéra toutes choses. Cependant, nous sommes aussi ouvriers. Ouvriers. Car tout est don. Et pourtant, tout implique notre effort. Et j'en sais quelque chose. Notez 2e épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, Luc 13, 24, 2 Timothée 2, 15 et Hébreux 4, 11. La sainteté est pleinement son œuvre. C'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 et 1 Corinthiens 6, verset 11. Et pleinement, c'est mon affaire, notre affaire. Hébreux 12, verset 14, et 1er épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 3. Elle est donc sans réserve, elle est un présent et également un ordre. Elle est sans réserve, elle est un don et de ce fait également un devoir. Je ne sais pas si on devrait répéter. C'est Dieu qui opère toutes choses, cependant nous sommes aussi ouvriers. Tout est don, et pourtant tout implique notre effort. La sainteté est pleinement son œuvre, et elle est pleinement mon affaire. Elle est sans réserve un présent et un ordre, sans réserve un don et un devoir. En relation avec le choix des appelés avant les âges, selon Éphésiens 1, verset 4 et 5, nous avons la sanctification des choisis au cours des âges. Saint Jean 17, verset 17 et 2 Corinthiens 7, verset 1. Et nous avons la glorification des sanctifiés à la fin des âges. Saint Jean, chapitre 17, verset 24 et 2 Timothée 2, verset 5. Cet harmonieux contraste, il est valable. Il est dit « travaillez à votre salut ». Et oui, il n'est pas dit de simplement s'asseoir dans un fauteuil et puis de penser « je suis sauvé, alléluia, tant pis pour les autres ». Pas tout à fait ça. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippe, chapitre 2, versets 12 et 13. Je veux répéter cela sans les indications bibliques, afin que nous puissions mieux comprendre. Moi y compris. En relation avec le choix des appelés avant les âges, nous avons la sanctification des choisis au cours des âges, et nous avons la glorification des sanctifiés à la fin des âges. Cet harmonieux contraste est valable. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tout essai humain d'explication est ici complètement déplacé. Même en Romains 8, verset 29, et la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 1 et 2, la question demeure sans solution définitive. La liberté de la volonté humaine, noté Matthieu 23, 37, et dit Offenbarung, non, Apocalypse 22, verset 17. Tout cela est affirmé, tandis que d'autres textes semblent souligner son manque de liberté. Romains 9, verset 11, verset 15 et 16, verset 18, et le chapitre 11, verset 5 et le verset 7. Ce sont donc deux lignes parallèles qui ne se rencontrent que dans l'infini. Quatrièmement, nous avons les cieux et la terre. Christ a été élevé aux cieux, Éphésiens 1, verset 20, chapitre 4, verset 10, Hébreux 7, verset 26, chapitre 8, verset 1. Cependant, Christ demeure en nous, sur la terre, Éphésiens 3, verset 10, et Galates chapitre 2, 20, par le Saint-Esprit. Le chrétien, il vit sur la terre, Saint Jean 17, verset 11, et Philippiens 2, verset 15. Pourtant, le chrétien, il est, malgré tout, assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6, chapitre 1, verset 3, et Philippiens chapitre 3, verset 20. L'expression « dans les lieux célestes » ne se trouve que en Éphésiens, où l'apôtre Paul l'emploie 5 fois dans le sens d'un « lieu », ce que nous montre surtout Éphésiens chapitre 1, verset 20, et le chapitre 2, verset 6, le chrétien qui a expérimenté la crucifixion avec Christ, Galates 2, verset 19, expérimentera également sa résurrection. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je dis le chrétien qui a expérimenté la crucifixion avec Christ, expérimentera également sa résurrection et, par l'Esprit Saint, il aura son ascension aux cieux. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Le lien entre le ciel et la terre, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vient d'en haut vers la terre, acte 2, verset 33, et qui nous conduit d'ici-bas, où cela, vers la patrie céleste, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17 et 18. C'est magnifique. Nous avons cinquièmement l'éternité et le temps. Eh bien, l'éternité, ce n'est pas simplement un temps qui est sans fin. L'éternité est différent non seulement par rapport à la durée, mais aussi quant à son contenu, de tout ce qui est temporel, de tout ce qui est temporel dans son essence même. Il faut donc bien se garder d'introduire l'idée de temps à l'intérieur de l'idée d'éternité. nous n'arriverons à l'idée d'éternité par aucune sorte d'addition de temps. Jamais. La vie éternelle n'est pas simplement une vie sans fin. Matthieu 25, verset 46 et Saint Jean 8, verset 51. Mais la vie éternelle, c'est une vie divine. Et cela sera merveilleux. Et c'est maintenant déjà que la foi expérimente le Dieu éternel à l'intérieur des limites du temps. Toute communion avec Dieu, par la prière en particulier, ça c'est une participation à la vie de Dieu. Par la prière, au milieu du temps, au sein de ce qui varie et chancelle, l'homme et la femme se tient déjà dans l'intemporel. Il est ainsi, elle est ainsi nourrie de ce qui est inébranlable et de ce qui est permanent. C'est là ce que veulent dire les Saintes Écritures lorsqu'elles enseignent que le croyant, elle a la vie éternelle. Et c'est dès aujourd'hui, sur la terre, que celui ou celle qui croit au Fils a obtenu la vie éternelle. Saint Jean, chapitre 3, verset 36, et notez chapitre 17, verset 3, et notez 1er épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 14, et le chapitre 5, verset 12. Je crois que il vaudrait la peine, je pense, de répéter, parce que c'est pas tout facile et c'est important que nous comprenions le tout. L'éternité, on a dit, n'est pas simplement un temps sans fin. L'éternité est différente non seulement par rapport à la durée, mais aussi quant à son contenu. De tout ce qui est temporel, dans son essence même. Il faut donc se garder d'introduire l'idée de temps à l'intérieur de l'idée d'éternité, car nous n'arriverons à l'idée d'éternité par aucune sorte d'addition de temps. La vie éternelle n'est pas simplement une vie sans fin, mais c'est une vie divine, et cela est merveilleux. C'est donc maintenant déjà, maintenant, aujourd'hui, que la foi expérimente le Dieu éternel à l'intérieur des limites du temps. Toute communion avec Dieu, la prière en particulier, ça c'est une participation à la vie de Dieu. Et c'est par la prière au milieu du temps, au sein de ce qui varie et chancelle, que l'homme et la femme se tiennent déjà dans l'intemporel. Il est déjà nourri, elle est déjà nourrie, de ce qui est inébranlable et permanent. C'est donc là ce que veulent dire les Saintes Écritures lorsqu'elles enseignent que le croyant, que la croyante, elle possède maintenant la vie éternelle. C'est dès aujourd'hui déjà, sur la terre, aujourd'hui, à l'heure actuelle, que celui et celle qui croit au Fils de Dieu a maintenant déjà la vie éternelle. Et sixièmement, nous avons, pour terminer notre étude d'aujourd'hui, nous avons esprit et corps. Tout cela se passe à l'intérieur des limites du temps. Nous sommes, chers amis, en Christ. Et pourtant encore, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans l'Esprit, Romains 8, verset 9. Et cependant encore, nous sommes dans ce corps, 2 Corinthiens 5, verset 6. Nous sommes donc à la fois délivrés de la mort et tenu de mourir. 2 Corinthiens 4, versets 11 et 16. Quel faible organe que notre âme, et j'en sais quelque chose. Quelle tente fragile que mon corps, et je peux vous en parler à 88 ans. Quel contraste entre l'Esprit Saint de Dieu et l'homme, entre le contenu et le vase. C'est donc dans des vastes terres que nous sommes, que nous portons notre trésor. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous sommes donc, en même temps, nous sommes prêts et nous sommes dans l'attente. Nous sommes en repos et pourtant dans la course. Hébreux 4, verset 3 et le verset 10, ainsi que Philippiens 3, verset 12. Nous sommes libres, bien que contraints. Nous chantons la victoire, quoique parfois gémissant. Et là aussi, je peux vous en dire quelque chose. Ajoutez Romains 8, verset 31 à 39, et 2 Corinthiens 5, verset 4. Nous sommes mourants, et oui, là aussi je m'en rends compte. Et pourtant, voici, nous vivons. Nous en sommes attristés. Et malgré tout, en Christ, nous sommes toujours joyeux. Nous sommes pauvres, oh oui, et nous en enrichissons plusieurs, malgré notre précarité. N'ayant rien, et pourtant, nous possédons en quelque sorte toutes choses. 2 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Nous, ou plutôt notre regard se porte vers le haut, en haut, c'est-à-dire vers l'Éternel, vers Yahvé l'Éternel, le Dieu de notre univers, en tant que supra-historique, en avant donc vers ce qui est éternel en tant que le but de toute l'histoire. C'est un maintenant, mais également c'est un bientôt. C'est une possession actuelle, mais c'est également une attente. C'est une foi, mais également une espérance. 1er épître de Pierre, chapitre 1, verset 21. Donc, c'est une double expérience qui est enracinée dans l'amour éternel. Finalement, le jour vient, il va venir, où va disparaître toutes les tensions et tous les obstacles. Avec le retour du Christ, toute contrainte sera enfin abolie. La lutte et l'opposition de l'âge présent, cette lutte sont celles qui opposent la manifestation du royaume de Satan au royaume de Dieu qui est encore caché en dépit de la victoire de Golgotha. Mais, avec l'apparition du Christ, tout cela, n'oubliez jamais, tout cela sera résolu. Alors, en terminant pour aujourd'hui, alors viendront, avec l'apparition de Jésus-Christ, Colossiens 3, verset 4, viendra la révélation du corps spirituel, viendra la promotion de l'Église du temps à l'éternité, viendra la transfiguration du présent au futur, viendra le plein accord entre notre condition et notre position, viendra le perfectionnement de notre œuvre humaine par son œuvre divine. Et pour terminer, viendra notre élévation, oui, notre élévation loin de la terre, jusque dans le monde céleste. Nous pouvons dire ensemble Amen. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Chers amis, nous allons, si vous le voulez bien, terminer ensemble par la prière, tout simplement. Prions. Dieu de fidélité, tu es notre Père à tous. Tu es riche en compassion et en bonté. Tu veux que durant notre terrestre voyage, nous sachions nous reconnaître tous, nous reconnaître pour étant tes enfants. Et qu'en ce jour, nous puissions contempler, avec joie et avec reconnaissance, le plus grand de tes fils, ô Éternel, c'est-à-dire notre frère aîné, qui est notre Sauveur et Seigneur, qui a regardé un jour le monde avec des yeux d'enfant. Il était tout faible et il était vulnérable, comme le sont nos petits à nous. Tu l'as protégé, ô Dieu de l'univers. Et après sa naissance, tu l'as protégé contre tous les dangers. Et ensuite, tu l'as fortifié dans ton alliance. Et il a ainsi pu croître, grandir en stature et en grâce devant toi, Dieu éternel, et devant les hommes. Permets, ô Seigneur, que nos enfants bien-aimés, qu'ils puissent à leur tour parvenir dans ton Église, qu'ils puissent aussi parvenir à la communion avec toi, que ta main tutélaire et ta bénédiction puissent reposer sur eux également, afin de les préserver du mal qui aujourd'hui est plus que jamais, on peut dire le mot épouvantable, que malgré tout ce qui les entoure pour empêcher de croire, pour empêcher de s'attacher à toi, qu'ils puissent croître dans ta connaissance, dans ta crainte et dans ton amour, pour qu'avec nous tous, enfin, ils puissent monter sans cesse et soient ainsi élevés jusqu'à ton royaume éternel. Ainsi soit-il. Amen. Chers amis, merci pour votre écoute, pour votre patience. Il est vrai. Et soyons tous, moi y compris, plutôt moi encore plus que vous peut-être, assez humbles pour reconnaître que toutes ces études ne sont pas une banalité, mais sont d'une haute importance. Même si ça peut nous paraître un peu extraordinaire, ringard, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ringard, hors du temps. Mais je suis sûr que si vous vous humiliez dans la prière, vous et moi, nous allons constater que nous avons plus que jamais aujourd'hui besoin de notre Père Céleste, de son Fils Jésus-Christ, pour nous tenir à la main jusqu'à la fin. Car, comme on dit certains, ce n'est pas de la tarte aux cerises. C'est sérieux aujourd'hui, très sérieux. Chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de notre série qui est un peu hors de banalité, assez profond, assez concentré, et parfois ça mérite un moment de prière et de méditation. Donc, à demain matin, Dieu voulant, c'est lui qui tient notre vie dans sa main, comme il tient tout l'univers dans sa main. À bientôt, mes chers amis, je vous aime. Et le Seigneur vous aime par-dessus tout. À demain. Au revoir.